Grâce au Monde Machine, une série de podcasts présentés par Floraison avec les animaux politiques de pièces et main-d'œuvre.
Bonjour, bienvenue sur Floraison. Je suis Lorenzo et j'ai le plaisir de vous annoncer le début de la série Face au Monde Machine, un entretien technocritique au long cours avec les Grenoblois de pièces et main-d'œuvre. Depuis 20 ans, pièces et main-d'œuvre ont publié une quinzaine de livres. Pour tout écologiste attaché à la nature et à la liberté, leur travail est aussi important que passionnant. Afin d'en rendre compte correctement, il nous fallait un format un peu plus grand que d'habitude. Voilà pourquoi, au mois de juillet 2022, accompagné de mon camarade Belka, nous sommes allés discuter trois fois avec PMO à Grenoble, au Chimère Café, que l'on remercie pour l'accueil. Et nous restituons à présent nos entretiens sous forme de feuilleton. Un nouvel épisode sera mis en ligne chaque vendredi soir, 19 épisodes en tout. Si vous ne connaissez pas l'écologie anti-industrielle, cette série est faite pour vous. J'ai vraiment hâte que tous les épisodes soient en ligne et que vous les écoutiez. Pour PMO, la technocratie est la classe du savoir, de l'avoir et du pouvoir produite par le capitalisme industriel pour révolutionner constamment les produits, services et moyens de la puissance. Et le transhumanisme est l'idéologie de la technocratie à l'ère des technologies convergentes et à l'avènement du règne machinal. Voilà de quoi on va parler. Mais pour bien comprendre tout cela, il faut du temps. Et ce temps, on va le prendre ensemble. Je vous emmène donc avec nous, à Grenoble, dans cette riche aventure intellectuelle et historique. On commencera doucement, en faisant connaissance avec PMO, avec leur méthode de travail. Et puis, au cours des épisodes successifs, des différents chapitres, on fera plusieurs voyages dans le temps, dans l'histoire de l'industrialisation de Grenoble, dans celle de la volonté de puissance, de l'eugénisme, du transhumanisme, de l'emballement des technologies convergentes nous menant au règne machinal et à l'incarcération de l'homme-machine dans le monde machine. Préparez-vous, on a beaucoup à explorer ensemble. Et sans plus tarder, voici Du monde à l'immonde, le premier épisode de Face au monde machine. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous sommes avec PMO à Grenoble. Bonjour à vous.
Bonjour.
Peut-être juste pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter de la manière dont vous voulez ?
D'abord dire que PMO, ça veut dire pièce et main d'œuvre, pour ceux qui l'ignoreraient. Et parler de Grenoble peut-être et de dire que nous sommes des Grenoblois. C'est bien que vous soyez venus ici parce que moi, je trouve que quand on vous vient à Grenoble... On comprend ce que c'est qu'une technopole. Historiquement, Grenoble est la première des technopoles en France et ça se voit aussi dans le paysage. Donc c'est bien que vous soyez là, mais on reviendra sur ce que c'est qu'une technopole. Mais... dire deux mots rapidement, on va peut-être parler chacun pour soi pour comprendre un peu. Moi, je suis grenobloise. J'ai compris il y a 20 ans de ça, enfin, en revenant à Grenoble après une petite période où j'étais ailleurs, à quel point ma ville avait changé et à quel point elle changeait toujours plus vite. Et c'est une chose qui me frappait considérablement, au point que par moments j'avais presque le sentiment d'être en exil dans ma propre ville. Et j'étais très souvent obligée de me dire consciemment « Ah mais si, c'est là que, quand j'étais petite, je faisais ça, et c'est bien dans cet endroit qu'il se passait ça, etc. » Tant les choses se modifiaient sous mes yeux, quoi. Et c'était un sentiment très étrange. Je pense que beaucoup de gens le ressentent, enfin les gens qui restent un petit moment quelque part. C'est pourquoi c'est important, me semble-t-il, d'insister sur le fait qu'on est quelquefois de quelque part, Pourquoi ? Parce qu'on a la possibilité de voir à quel point cet endroit se dégrade. Les gens qui arrivent comme ça à Grenoble aujourd'hui, ils trouvent ça très bien. Évidemment, ils n'ont pas connu ce qui a été détruit. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir la mémoire des lieux. Personnellement, c'est une chose qui m'est très importante, c'est la mémoire des lieux et la mémoire des anciens, parce qu'eux peuvent raconter ce que c'est devenu. C'est-à-dire que les choses n'ont pas toujours été telles qu'elles sont. Et ce qui nous a intéressé, c'est de comprendre qu'est-ce qui les faisait changer, qu'est-ce qui faisait changer cet endroit, cette ville, les gens et nos vies, par conséquent.
Non. Moi, je suis un grenoblois d'adoption. Je suis venu pour la première fois à Grenoble en 72. Et j'y ai passé ma première jeunesse entre 72 et 79. Grenoble, à l'époque, était une ville à la montagne. Si tu allais à Place Grenette, à deux pas d'ici, la Place Grenette étant la grande place de Grenoble, hein. L'élégance grenobloise, à l'époque, c'était veste d'escalade, anorak de randonnée, combinaison de ski. Enfin, il n'y avait même pas des combis, d'ailleurs, c'était... Ouais, enfin, c'était blouson, anorak de ski et jeans, quoi. Enfin, bon, puis cheveux longs, bien sûr. Et quand j'y suis revenu en 94, et puis ensuite, c'était devenu une sorte de Lyon. Bon, et dire que c'est devenu une sorte de Lyon, c'est pas un compliment à Grenoble. Bon, un petit Lyon, mais tu voyais des rombières habillées en noir et des magasins de luxe, Place Victor Hugo, de vêtements.
Et des spas.
Et des spas.
On savait même pas ce que c'était.
Et les rues du centre-ville étaient devenues des abreuvoirs à étudiants, avec l'impossibilité pour les gens qui y habitaient de dormir, simplement. Tu vois, des abreuvoirs porte à porte, tu vois, rue Brocherie, rue Chenoise. Et il y a eu plein d'autres choses comme ça, plein d'éléments du décor, ou plein d'éléments de la population, de la sociologie, qui s'était transformée, pas en mieux, qui s'était dégradée. Tu peux essayer de... C'est ce que j'ai tenté. Tu peux essayer de te replier sur toi-même, de vivre en toi-même, dans ton fort intérieur, de fermer les écoutilles, de vivre dans ton appartement, dans tes livres, dans tes écritures, et essayer de ne pas tenir compte de l'environnement. Moi, ça m'était difficile parce que j'habitais Place aux Herbes. Et l'environnement m'a rendu malade. C'est vraiment l'épicentre de la nuit grenobloise. C'est le brouhaha jusqu'à 4h du mat, et ça recommence à 6h parce que t'as un marché. Donc je suis vraiment tombé malade, physiquement. Bon, j'aurais pu en prendre mon parti, vivre malheureusement avec ça, comme toutes sortes de gens vivent malheureusement dans leur ville, que ce soit à Toulouse, à Rennes, à Marseille, à Lyon, et ne plus y faire attention. Et essayer de me concentrer sur le positif. Ouais. J'ai essayé ça aussi, c'est-à-dire que j'ai beaucoup été en montagne. Un des avantages de Grenoble, c'est que tu marches une demi-heure et tu vois ta première vache. Donc j'ai beaucoup été en montagne, j'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup essayé, mais au bout d'un moment, ce n'est plus possible parce que tu n'es pas étanche. Enfin, il y a peut-être des gens qui, au fond d'une prison, dans leur geôle, jouissent d'une grande liberté intérieure, et sont indemnes de toutes les calamités extérieures. Et moi, je dois dire que je n'y arrive pas. C'est pas possible. Donc, il te reste deux possibilités. Soit la dépression, c'est-à-dire que tu laisses l'extérieur t'envahir, le bruit comme métaphore de toute la calamité moderne, mettons. Soit tu t'exprimes et tu repousses ce bruit. Et il vaut mieux s'exprimer que prendre des cachets ou d'aller voir un psy. Mon point de vue.
Avant que vous développiez, quand vous parlez de l'environnement qui se dégrade, de ce qui est pire, de ce qui est positif, peut-être vous pouvez nous expliquer c'est quoi vos valeurs, c'est quoi ce qui vous anime.
Moi, j'ai le sentiment de la nature depuis l'enfance. C'est un sentiment d'enfance. C'est un sentiment qui s'est nourri du contraste entre les campagnes où je passais l'été, en Haute-Savoie en particulier, dans un petit village de Haute-Savoie, et ce qui était devenu la ville où j'habitais, la ville de banlieue où j'habitais, et du contraste entre le passé et le présent, parce que ma mère, qui n'avait que 19 ans de plus que moi, me parlait de ce qu'on habitait dans une boucle de la Marne. Et elle me racontait comment elle allait se baigner, elle, dans la Marne. Et moi, si j'avais été me baigner dans la Marne, j'aurais pris le typhus. Et je me serais fait bouffer par les rats. Et elle me racontait comment elle allait au bal sur les îles de la Marne, à l'île d'Amour, l'île Fanac, chez Gégène, entre Joinville et la Varenne. Et moi, tout ce que je voyais, c'était de la banlieue sillonnée par des bus, des camions, et les bords de Marne dévastés, enfin, un égout, quoi. Et d'autre part, comme j'étais un lecteur avide, le sentiment de la nature m'était communiqué aussi par toutes mes lectures. J'avais des mots pour dire ce que je sentais, puisque je faisais partie de ces prétentieux qui utilisent des grands mots, c'est-à-dire qui utilisent des mots, en fait, et qui ont des idées. Des grandes idées, c'est-à-dire juste des idées, quoi. J'ai retrouvé, par exemple, la description de ma ville faite par Diderot dans une lettre à Sophie Volant, sa bonne amie. Diderot explique comment il a fait une partie de campagne un dimanche avec son ami le baron machin, je sais pas quoi, et ils ont été se promener entre Saint-Maur, Champigny, Chennevières, et ils ont été dans les champs et dans les bois. Il explique que c'est un tableau si merveilleux que les peintres ne pourraient pas le peindre. Et qui, en revenant, ils se sont arrêtés aux pêcheries des paysans. Parce que les paysans avaient des pêcheries, c'est-à-dire qu'ils pêchaient dans la Marne. Et ils se promettaient bien d'y retourner. Et évidemment, moi, je n'ai rien vu de ça. Donc, cette description qu'il fait en 1759, au moment où commence la révolution industrielle, c'est la description de quelque chose qui a disparu. Et moi, il ne m'en reste que donc cette description. De la même façon que Stendhal. Stendhal décrit cet endroit ici. Et il explique qu'au mois de juin, donc Stendhal, c'est 100 ans après, enfin 80 ans après Diderot, Stendhal explique qu'en juin, il sent l'odeur des blés qui arrivent à la porte Trécloître. La porte Trécloître, c'est à 500 mètres d'ici.
Hein ? Donc on est où là ? On est en centre-ville.
On est au centre de Grenoble et Stendhal habitait au centre, pas très loin d'ici. Mais le centre était déjà la limite de la ville, tellement elle était petite. Ouais.
Et la ville s'est multipliée par 100. En fait, c'était à peine une ville, c'était une bourgade. Donc voilà, moi mes valeurs, elles sont extrêmement banales. Hein. J'ai le sentiment de la nature et lié indissolublement à celui de la liberté. Mais je veux pas développer
maintenant. C'est rigolo parce que c'est pareil pour moi, mais pour des raisons inverses. Parce que j'ai eu la chance de passer les premières années de ma vie en montagne et donc de pas être privé de ça. Si j'ai le sentiment de la nature, c'est pas parce que ça m'a manqué, mais c'est parce que j'ai grandi dedans. Et que j'en garde évidemment des souvenirs et une trace indélébile. Et quand je disais, quand je vois que les choses changent, j'ai des souvenirs enfant de marcher dans des champs où la neige était plus grande que moi, plus haute que moi. Évidemment, c'est des choses que les enfants d'aujourd'hui ne peuvent pas connaître. Et c'est sidérant de se dire qu'en une génération comme ça, ça ait pu disparaître. Donc la nature, elle est
périssable.
Elle est périssable et en même temps, elle est constitutive de ce qu'on est l'un et l'autre, mais pour des raisons, des chemins différents. Mais au fond, c'est le même sentiment qui nous anime, je crois. Doublé chez moi, je crois, d'une tendance déplorable à la contemplation. Bon, c'est comme ça, c'est des tempéraments, hein, on choisit
raconte,
pas.
Pilou, raconte.
Et oui, ça va. Mais moi, depuis que je suis gamine, grosso modo, tu me poses quelque part dans une clairière et puis voilà, tu reviens me chercher plus tard et ça s'est bien passé, quoi. Et effectivement, je ne peux être qu'agressée par l'agression du monde. Enfin, évidemment, très souvent, vraiment, c'est pas une blague, mais très souvent, je me dis, ils peuvent pas juste regarder et profiter, ces humains autour de moi. Non, il faut qu'ils salopent, quoi. C'est quelque chose d'incompréhensible. Et oui, la blague, c'est qu'il y a 15 ans de ça, la gauche grenobloise avait... ici, on a la Bastille, donc c'est une espèce de montagne qui s'avance dans la ville, et sur le sommet de laquelle il y a un fort qui a été construit par Vauban et qui est relié par les fameuses bulles de Grenoble, le téléphérique urbain qui fait la notoriété de la ville chez les touristes. Et c'est déjà bien suffisant qu'on les trimballe en bulle, ça va. Et puis là-haut, et bah, ils profitent du paysage, ils boivent un coup, ça va. Mais non, la gauche socialiste et apparentée locale, donc il y a 15 ans de ça à peu près, avait décidé qu'il fallait qu'on valorise le haut de la Bastille et qu'on y fasse une sorte de Luna Park, enfin un mini-golf, je sais pas quoi, tout un tas d'animations. Et le conseiller municipal en charge de ce dossier avait dit « Quand on monte là-haut, il n'y a rien à faire à part la contemplation. Voilà. » Bon, donc on n'était pas d'accord, lui et moi.
Et ça lui semblait vraiment minable, quoi. Enfin,
voilà. Et autant pour Victor Hugo, hein, mais bon. Voilà, et après, moi, j'ai grandi dans une famille, je crois que je peux le dire, enfin, écolo. Ma grand-mère m'a transmis tout ce que j'ai de réflexe, je dirais, parce que c'est de l'ordre du réflexe intime, enfin, c'est quelque chose d'intime vis-à-vis de la nature d'un comportement, je ne sais pas comment dire... assez léger, quoi, hein, ne pas abîmer quand on est sur la terre. Ça me vient de ma grand-mère principalement, mais aussi après de ma mère. Enfin, on a toujours eu un mode de vie très frugal et loin de toute consommation. Il y avait pas de télé à la maison. Il y avait pas. Chez nous, ça a toujours été un gag, mais il y avait zéro électroménager. Enfin, bon, bref. Donc voilà, une famille probablement de ce côté-là, en tout cas, qui m'a fait grandir comme ça, quoi. Et puis, j'ai pas vu la nécessité de le changer. Une fois devenue grande. Et voilà, on en arrive là. C'est drôle parce que j'ai découvert Épicure sur le tard, trop tard, on ne me l'a pas enseigné à l'école. Et en fait, en le lisant, je me suis dit que j'avais toujours été épicurienne, mais sans le savoir. Cette idée qu'il faut faire avec le moins possible et que quand t'as peu, tu profites encore plus de ce que t'as. Que quand t'as beaucoup, c'est une chose que j'ai toujours sentie dans ma vie personnelle, quotidienne, pratique, etc. Bon, ce qui peut faire des fois sourire autour de moi, mais c'est comme ça. Voilà.
En fait, on est passé du monde à l'immonde. Le monde mundus en latin, ça veut dire beau. Tu vois, la beauté du... Et immonde, bon, bah, tu vois bien ce que c'est, quoi. Donc, on habitait la beauté et on... Mais pas n'importe quel on, enfin, mettons la société industrielle pour aller vite, on a fait quelque chose d'immonde. Je suis persuadé que les gens, peut-être que je prends mon cas pour une généralité, mais je suis persuadé que les gens ne peuvent pas être indemnes de ce passage du monde à l'immonde et qu'ils en ressentent une grande détresse et que cette détresse doit être compensée par toutes sortes de remèdes, de tendances escapistes. Bah, tu remplaces la nature par la télé, enfin, ou par un film, ou par le métavers.
Oui, la réalité virtuelle.
La réalité virtuelle. Mais quand même, je suis persuadé que la détresse demeure, qu'elle est y compris une détresse physique, d'où tous les médicaments et la profonde dépression contemporaine. Bon, avant on buvait, mais c'est pas du même ordre. Je crois qu'on vit dans une humanité souffrante. C'est une déclaration bizarre dans ma bouche qui a une réputation de misanthrope affirmée, mais bon. Il y a tout un appareillage d'hypnotisme, je ne sais pas comment dire, d'hallucination. Il y a tout un appareillage hallucinogène de façon à ce que les gens ne se disent pas clairement qu'ils souffrent et pourquoi ils souffrent. Et même quand ils disent qu'ils souffrent, ils préfèrent se dire qu'ils vivent dans le mauvais sexe plutôt que de se dire qu'ils vivent dans un mauvais monde. Pour te terminer le chapitre sur la Bastille, en tout cas pour le prolonger, Rousseau a fait un séjour à Grenoble. Il habitait rue Jean-Jacques Rousseau.
Ça tombe bien.
Ça tombe bien. C'est extraordinaire d'ailleurs, il a été accueilli comme une rockstar. Et il avait donné des consignes pour qu'on ne le reconnaisse pas. Donc les gens le croisaient dans la rue, disaient c'est Rousseau, mais personne n'en parlait. Et il allait faire une balade en calèche avec un de ses amis, celui qu'il recevait. Et quand ils allaient à Ébens, à 3 km d'ici, et quand ils revenaient, il y avait toute la population de Grenoble qui était rangée sur le côté de la route, comme pour le Tour de France. Et c'était juste pour Rousseau. Et tout le monde le regardait passer, mais personne ne disait rien. Et il allait faire de l'herboristerie près de chez nous. Enfin bon. Rousseau a laissé, l'hôte de Rousseau a laissé un mémoire du passage de Rousseau à Grenoble, où il explique qu'un jour ils ont été faire un pique-nique à la Bastille. Et donc c'est toute une expédition, parce qu'on prend les ânes, on met des paniers sur les ânes, dans les paniers on met de la vaisselle, de la lingerie, de la nourriture, les laquais conduisent les ânes, les femmes sont juchées sur les ânes, parce qu'elles ont des robes très encombrantes. Et donc, on va passer la journée à la Bastille. Tu vois, là où je monte en 20 minutes. Et c'est toute une expédition. Enfin, pour te dire. Hein. Et maintenant, ce projet de Luna Park, qui finalement avait subi plus ou moins du plomb dans l'aile, on s'y était opposé. J'avais été dans des réunions où j'avais failli me faire rentrer dedans par l'animateur du projet, qui était un ancien rugbyman, qui auparavant animait une station de...
Il était président de la Compagnie des Alpes, c'est-à-dire les gens qui équipent les Lambert.
Oui.
Ouais. Bon, enfin bref.
Station.
Bon, c'était quelqu'un du milieu de l'équipement de la montagne, quoi.
Oui. Il avait été assez agressif avec moi. Mais ils sont parvenus à leur fin. Mais ils l'ont fait sans le dire. Au lieu de l'annoncer, ils l'ont fait sans le dire. Et maintenant, au sommet de la Bastille, tu as un espace bivouac. Avec des cabanes qui ont été construites.
Par les étudiants en architecture, non, c'est pas ça.
Et donc, tu payes tes nuitées dans la cabane. Et comme ça t'initie à la montagne. Laquelle montagne tu as détruite. Puisqu'avant, moi, il m'est arrivé de voir des biches à la Bastille, et des animaux, et il n'y en a plus, évidemment. Fin de la parenthèse.
Donc Grenoble, c'est le lieu où vous vivez, c'est le lieu où vous enquêtez, et ça façonne
Donc on était malheureux de l'endroit où nous habitions. On se disait ce malheur, on en parlait éventuellement avec d'autres gens. C'est comme ça, on n'arrête pas le progrès, qu'est-ce que tu veux, c'est partout pareil.
Il y a quand même du bien.
Oui, il y a quand même, on n'en est pas là, il y a des bons côtés à Grenoble, enfin bon... Et toutes sortes d'explications non satisfaisantes. Donc, qu'est-ce qui me restait à faire ? Je pouvais déménager une fois de plus, ce que j'ai beaucoup fait dans ma vie, partir ailleurs. Bon, rapidement, je me suis dit qu'il n'y avait pas d'ailleurs. J'étais bien placé pour le savoir, puisque j'y avais été ailleurs. Vraiment, enfin, j'ai beaucoup voyagé, quoi. Et d'autre part, assez tôt, je me suis dit qu'il valait mieux essayer de comprendre ce qui se passait. Parce que comprendre ce qui se passait... C'était peut-être la possibilité d'y pouvoir quelque chose, peut-être, de pouvoir quelque chose à ce qui se passait. Et en tout cas, enfin, d'avoir une prise sur le monde, comme tu en as sur une valise, d'avoir une poignée, quoi. En tout cas, je ne sais pourquoi, mais il semble que ça procure un soulagement en général aux gens de comprendre ce qui leur arrive.
Hein ? Comprendre le monde pour le transformer ou pour éviter de le transformer ?
Comprendre le monde, en tout cas, ou comprendre l'évolution du monde... Pour te dire au moins que tu n'es pas fou, que tu n'as pas des hallucinations, que tu n'es pas...
Et pour pas subir seulement.
Pour pas subir, tu vois. Enfin bon, ça, c'est Orwell, hein, c'est la démarche d'Orwell. Hein. Une fois que 2 et 2 font 4, ceci accordé, tout le reste s'ensuit. C'est pas toi qui es fou, c'est le monde.
2 font 5.
Non, 2 et 2 font 4, Orwell, et non pas 5.
Ça, c'est ce qu'on voudrait nous faire croire.
On veut nous faire croire que 2 et 2 font 5.
Et toi, tu as bien vu que 2 et 2 faisaient 4.
Oui. Enfin, bon, il faut le prouver. Maintenant, il faut le prouver. Donc, ce que j'ai fait attention. D'abord, j'ai fait attention. La plupart des gens ne font pas attention. Ils ne font pas attention à leur vie, ni à leur ville, ni au monde dans lequel ils vivent. Comme disaient les Américains, « they take it for granted ». Ils le tiennent pour acquis. Et à l'autre bout, je crois que c'est David Thoreau. J'ai pas beaucoup lu David Thoreau, il m'ennuie un peu. Mais il a dit, je crois que c'est lui qui a dit une chose très vraie, c'est « Puisse toute chose habituelle nous étonner, nous surprendre. » L'étonnement étant le... Mais évidemment, c'est très difficile de t'étonner dans un endroit qui est ta vie quotidienne, l'étonnement s'use rapidement. Hein. Donc il faut rafraîchir ton étonnement, il faut rafraîchir ta vue. Et c'est là que moi j'ai fait appel à quelque chose que je connaissais déjà, qui est l'enquête.
Et l'enquête critique, la méthode de pièce et main-d'œuvre, c'est justement ce qu'on verra dans le prochain épisode, vendredi prochain. On découvrira à quel point le travail d'enquête critique est important pour comprendre le monde et ce qui se passe, et peut-être y pouvoir quelque chose. À la semaine prochaine.
Si l'on veut vraiment combattre toutes les dominations, hiérarchies, inégalités, discriminations, exclusions, il faudrait au premier chef se dresser contre la plus puissante, la plus menaçante et la moins réversible des dominations, le techno-totalitarisme. Ni techno-dieu, ni techno-maître, vive la liberté et vive l'anarchie.